Quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'organisation de cette rencontre. Cette rencontre est rediffusée désormais, ce sera régulier, mardi prochain sur le réseau Radio Chrétienne en France, RCF. Alors ça nous contraint à un petit aménagement de notre dispositif. La première partie de notre débat doit durer 55 minutes et cette partie sera ouverte à l'intervention de chacune de nos invités, puis ensuite à un débat entre elles deux. Et au bout de 55 minutes, nous devons arrêter au moins symboliquement notre soirée. Donc à ce moment-là, je vous ferai signe, il vous est demandé d'applaudir les deux intervenantes pour les remercier, ce qui permettra ensuite au monteur de la radio de savoir où couper pour pouvoir faire la mise en onde de son émission. Voilà. Et puis après, eh bien, nous ouvrirons le traditionnel débat avec la salle, avec vos questions. Mais cette partie-là de notre rencontre n'est pas retransmise sur RCF. Seules les 55 premières minutes sont retransmises. Ça nous oblige aussi un petit peu de formalisme dans la présentation de notre débat. Je pense que vous le comprendrez et que ce ne sera pas trop pesant, ni pour les intervenantes, ni pour vous-même. Voilà. Alors, eh bien, nous allons commencer. Et donc, bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes présents au Centre Sèvres, qui nous écoutez depuis les diverses villes où cette soirée est retransmise, et également à ceux qui nous écoutent de l'étranger, puisque nous sommes entendus également dans un certain nombre de villes à l'étranger. Nous sommes le mardi 7 novembre, et c'est le deuxième mardi d'éthique publique de cette année universitaire 2017-2018. Un mardi d'éthique publique intitulé 1917-2017, crépuscule de la Révolution. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, cela fait 100 ans jour pour jour, des membres du Soviet de Pétrograd, redevenu aujourd'hui Saint-Pétersbourg, s'emparaient des lieux stratégiques de la ville et déclenchaient la révolution bolchévique. S'agissait-il d'un coup d'État ou d'un soulèvement populaire? Les historiens en discutent encore et ce ne sera pas l'essentiel de notre rencontre de ce soir. Cette prise du pouvoir insurrectionnelle, sous la direction de Lénine et de Trotsky, fut en revanche le début d'un bouleversement de la Russie, qui allait devenir l'Union soviétique, et le premier d'une série d'événements appelés à marquer de façon durable l'histoire de l'Europe et du monde. La révolution de 1917, a écrit il y a quelques jours le philosophe libéral américain, donc de gauche, Michael Walzer, fut un désastre pour le peuple russe. Elle a amené dans son sillage une dictature brutale, la police secrète, les purges, les déportations de population, le goulag et les assassinats de masse. Le même Michael Walzer est aussi l'auteur d'un essai convaincant de l'Exode à la Révolution, où il discerne dans le livre biblique de l'Exode la matrice de toutes les libérations à venir. Comment donc oublier que la Révolution russe fut aussi la source d'un immense espoir pour les damnés de la terre qui y virent paraître la possibilité de leur émancipation? Alors, la révolution de 1917, Aurore, comme le nom du croiseur dont les canons donnèrent le signal de l'attaque du palais d'hiver, Aurore ou crépuscule de la révolution. Dans l'humanité de ce matin, le philosophe Yvon Quignoux estime que tant que l'on continuera à faire croire aux gens que cette révolution, même défigurée, était bien communiste, et tant que la réflexion n'ira pas jusqu'à la prise de conscience que le léninisme est définitivement périmé, alors l'idée communiste ne pourra pas reprendre de couleur. Certes, mais au-delà, n'est-ce pas l'idée même de l'avènement volontariste d'une société meilleure qui a sombré avec l'effondrement de l'utopie communiste? Pour débattre de ces questions, pour mieux savoir comment la révolution bolchévique a été reçue en Europe de l'Ouest, mais aussi pour nous interroger sur l'héritage de ce siècle dans la Russie d'aujourd'hui, Nous avons le plaisir, avec François Hevé, rédacteur en chef de la revue Études, partenaire de ces mardis d'études publiques, nous avons le plaisir d'accueillir et de remercier de leur présence Sophie Queret, historienne, professeure à l'Université Paris 7 Denis Diderot. Les recherches de Sophie Queret ont porté sur les représentations de la Russie et de l'URSS en Occident au XXe siècle. Elle a publié en particulier « La grande lueur à l'Est, les Français et l'Union soviétique, 1917-1939 ». Mais elle est aussi l'auteur d'une biographie de Pierre Pascal, un personnage très intrigant dont elle nous dira quelques mots, « La Russie entre christianisme et communisme » aux éditions Noir sur Blanc. Françoise Dosset est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Françoise Dosset dirige le Centre d'études des montres russes, caucasiens et centre-européens. Elle est en particulier l'auteur de « La Russie post-soviétique » aux éditions La Découverte et, l'an dernier, de « Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine » aux éditions du Bord de l'eau. Merci à vous deux de nous avoir rejoints pour ce débat. Et c'est Sophie Queret qui va d'abord prendre la parole pour nous rappeler comment ce grand mouvement révolutionnaire a été, dans les premiers temps, et puis par la suite, reçu en Europe de l'Ouest, une Europe agitée elle-même à l'époque par beaucoup de pulsions révolutionnaires aussi.
Voilà. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Bonsoir et merci à vous tous et toutes de me permettre de partager ces quelques réflexions et surtout ces recherches dans les archives françaises, russes. Mes recherches qui ont donc porté sur la réception, l'image de cette mythologie de la Révolution d'octobre, et je reviendrai peut-être sur ce terme de mythologie. La révolution qui éclate il y a un siècle tout juste à Petrograd, qui est le nom russifié de la capitale du grand empire russe, comme vous le savez, ça n'est pas la première révolution russe du XXe siècle, c'est la troisième. Et c'est important parce que c'est déjà un point sur lequel on peut s'interroger. On parle surtout d'octobre. Cette mythologie d'octobre, elle a été, comme on va le voir, construite, mais elle n'a pas été reçue immédiatement comme telle, puisque donc la révolution de 1905 avait déjà beaucoup fait parler d'elle en Europe et particulièrement en France, avec les premières réformes libérales, avec ce qu'on appelait la prison des peuples, l'immense empire qui entre en révolution contre son centre, et puis avec les violences, cette image de violence de la Russie, les fameuses violences du dimanche rouge, pendant lesquelles le tsar fait tirer sur son peuple. Donc la révolution de 1905 échoue, la révolution de février 1917 qui éclate pour le calendrier grégorien au mois de mars, puisqu'il y a ce décalage de 13 jours, l'orthodoxie et donc l'Empire n'ayant pas accepté le calendrier grégorien et restant au calendrier julien. Donc la révolution dite de février a un énorme écho en Europe occidentale et particulièrement en France pour des raisons qui sont liées essentiellement à la guerre. Et c'est aussi une remarque qu'on peut faire tout de suite et qui ne vous étonnera guère, c'est que la réception des événements internationaux est une réception qui est une perception qui se fait essentiellement en fonction des enjeux que l'on perçoit comme importants pour soi ou pour son pays. C'est-à-dire que certes, la Russie est mieux connue, surtout depuis l'alliance franco-russe, la comtesse de Ségur, le roman russe, et puis la presse qui diffuse l'image de la Russie. Mais si la Russie intéresse, c'est parce qu'elle est l'alliée de la France contre l'Allemagne et son allié donc sur le front Est, un allié qui a commencé à inquiéter par ses défaites, d'où l'envoi d'une mission militaire en 1916, et donc c'est de là qu'est partie toute l'aventure de Pierre Pascal, dont effectivement j'ai retracé l'itinéraire singulier, puisque Pierre Pascal, c'était ce jeune catholique cet officier français, normalien, agrégé, passionné par la Russie et parlant le russe, qui donc est tout à fait logiquement envoyé pour servir à la, ce qu'on appelait, sans négativité du tout, à la propagande de la France en Russie. Donc c'est là bien la révolution de février qui est perçue comme telle par la guerre et aussi par l'analogie qu'elle fait éclater immédiatement avec la Révolution française. C'est-à-dire que la France aussi est porteuse d'un universalisme, c'est l'universalisme de 1789, et on voit beaucoup d'analogies. La chute d'un ancien régime, la chute d'un tsar ou d'un roi, et puis on cherche aussi les analogies entre les personnages, Kerensky, le principal leader de la Révolution de février, comparé à Danton, etc. Donc la réception immédiate, c'est celle de février. La révolution d'octobre est beaucoup moins intéresse d'emblée beaucoup moins parce que au bout de quelques mois, on s'intéresse moins à cette Russie où il se passe toujours quelque chose, le putsch de Kornilov, les journées de juillet. On s'inquiète certes de la décomposition de l'armée russe, mais on comprend mal ce qui se passe en Russie. On ne connaît pas les bolcheviks. On commence un peu à connaître les personnages, Lénine, Trotsky. Mais la réception de la révolution d'octobre, elle est plus lente et puis surtout, elle est plus négative. C'est perçu tout à fait comme un coup d'État et non pas comme une révolution dans la majorité de la quasi-totalité de la presse française, y compris l'Humanité, l'Humanité socialiste, donc favorable à la première révolution mais hostile à la deuxième. Donc cette révolution d'octobre ne déclenche aucun mouvement d'enthousiasme, elle déclenche de l'intérêt et elle déclenche malgré tout des espoirs chez tous ceux qui veulent que la guerre s'arrête, ce qu'on appellera plus tard la grande boucherie de la guerre de 14. Il y a cette lassitude de l'année 1917 qui est très importante aussi pour comprendre la première réception de l'octobre 1917. Donc image généralement très négative puisque la Russie bolchevique abandonne la guerre. C'est la paix séparée de Brest-Litovsk, donc c'est ce qu'on appelle le lâchage, la trahison. Et dans une partie de l'opinion, espoir qui se diffuse dans les tranchées, dans les hôpitaux de l'arrière, et puis aussi par les petit à petit, par les premiers témoignages qui parviennent de cette Russie bolchevique, et notamment par l'intermédiaire Pierre Pascal. Pierre Pascal qui, loin de s'offusquer de la révolution bolchevique, se trouve entraîné dans ce mouvement révolutionnaire de façon tout à fait singulière. C'est ce qu'il appelle la politisation par l'expérience. Lui qui n'était pas du tout à gauche, se trouve qui n'était pas du tout marxiste, qui ne connaissait pas Marx, se trouve entraîné dans ce mouvement révolutionnaire par amour pour le peuple russe qu'il voit pacifique, et qu'il voit aussi pacifique qu'eux. Donc, un peuple russe qui veut arrêter la guerre, un peuple russe qui veut faire construire un ordre social plus juste. Et donc, il y a cet espoir dans une cité idéale dont il voit quelque part aussi la réalisation un peu évangélique ou millénariste. Donc, un entraînement vers une utopie, mais qui n'est pas un entraînement religieux. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce n'est pas une foi qui se substitue à une autre chez Pierre Pascal. C'est vraiment l'idée qu'on peut concilier les deux. Donc, comme il l'écrira lui-même, concilier les inconciliables, c'est-à-dire concilier le communisme marxiste, matérialiste, bolchevique, et concilier la foi. Donc, cette mythologie d'octobre, elle se construit finalement assez rapidement par d'un côté donc la réception de ces événements et du côté de la nouvelle capitale Moscou, du côté du gouvernement soviétique, par la volonté de construire cette image. Ça a été le sujet de mes premières recherches puisque les archives maintenant sont ouvertes. Donc on voit bien comment se construit ce qu'on peut appeler une véritable diplomatie d'influence ou diplomatie culturelle. Il s'agit de diffuser l'image positive de la Révolution parce que, dans un premier temps, on croit à la Révolution mondiale, jusque vers 1922, 1923. Et puis ensuite, quelque part, il reste ce projet universaliste du communisme de diffuser partout régime soviétique qui se veut un modèle pour l'Occident. Même dans des conditions difficiles qui vont être celles que Lénine va appeler avant Khrouchtchev la coexistence pacifique. Donc l'URSS est isolée dans l'entre-deux-guerres, et puis à partir de 1945, elle étend son modèle à l'Europe de l'Est, mais l'URSS est aussi la patrie de l'Internationale communiste, donc la patrie de tous les communistes, et se construit donc un système de mobilisation qui est à la fois intérieur et extérieur, et qui va développer des outils véritablement innovants de ce qu'on appelle à l'époque donc la propagande ou l'influence ou la guide-prop, notamment par le biais des voyages, donc des voyages politiques, des invitations, donc dont les plus connus vont être certains qui vont être véritablement séduits, comme Henri Barbusse, l'auteur du Jésus et l'auteur du Feu, et d'autres qui vont être déçus, comme André Gide. Donc la révolution... Le régime né de la Révolution se veut un modèle pour l'Occident et se développe ce modèle donc par toute une série de publications, de conférences, de voyages, qui est un système qui est très très puissant et qui ne va pas trouver en face de lui finalement un contre-récit. Parce que qui peut porter ce contre-récit ? Les déçus du communisme, mais qui sont divisés. Trotskistes, anti-staliniens de toutes sortes, comme Boris Souvarine, et qui sont aussi sans argent. Les libéraux se trouvent démunis, finalement, aussi d'un grand récit. Et quant aux émigrés russes, ils sont extrêmement aussi divisés entre eux. Et puis, il y a la barrière de la langue, notamment en France. Hein, les journaux sont largement publiés en russe. Donc, même si se développent des petits milieux extrêmement intéressants, comme par exemple le cercle qui se développe à Paris et surtout à Clamart autour du philosophe Nicolas Berdiaïev, autour de la revue Esprit, ces cercles ne vont jamais avoir une influence très forte, même comme quand quelqu'un qui connaît très bien le système de l'intérieur, comme Pierre Pascal, les rejoint. Puisque Pierre Pascal va être l'un de ces déçus du bolchevisme, il se rend rapidement compte que concilier communisme et christianisme, ça n'est pas possible. Il assiste à la politique de répression antireligieuse, à la destruction des églises. Il voit ses amis les plus proches arrêtés les uns après les autres, ou sa famille aussi, puisque son beau-frère est Victor Serge. Arrestation... propagande antireligieuse, destruction et déception de la part de Pascal, qui avait été un ardent propagandiste de cette Russie rouge et qui rentre donc en France en 1933 pour devenir donc l'un des grands professeurs de russe à la Sorbonne après la guerre, qui se rapproche de ces milieux d'Esprit, de Berdiaïev, mais qui se refuse aussi à témoigner. Et pourquoi ? Pour bien des raisons, mais dont l'une, peut-être la plus importante, est que toute sa famille russe, puisque son épouse est russe, est toujours en URSS, et que les arrestations se succèdent et envoient donc sa belle famille au goulag. Donc cette influence, cette construction d'une image positive, elle est mise en place rapidement, et dans ses fondamentaux, elle ne changera pas jusqu'aux années 1980, avec bien sûr des périodes d'ouverture et de fermeture, fermeture sous Staline à partir des grandes purges, avec des changements aussi dans le discours, puisque la révolution d'octobre est au cœur du discours dans les années 1920, mais sous Staline, Lénine va passer après Staline. C'est vraiment la construction nationale au sens... D'une nouvelle nation soviétique, d'une nouvelle patrie soviétique qui domine. C'est aussi le russe la langue russe qui va reprendre le dessus. Et c'est seulement donc dans les années 60 que la révolution de 1917 revient au premier plan avec la déstalinisation et puis aussi avec la politique soviétique qui est menée dans le tiers-monde. Avec donc ce message révolutionnaire, ce message internationaliste qui va être beaucoup reçu bien au-delà de l'Europe. Alors, pour terminer ce parcours très, très rapide, finalement, évidemment, la question que je me suis posée quand j'avais commencé à travailler, et puis que je me pose finalement toujours, c'est l'énigme de la réception de cette mythologie d'octobre et de cette image de la Révolution et du régime qu'elle a fait naître. C'est quelque chose d'énigmatique, puisque finalement, si on regarde de près l'information, on voit que la violence politique, la répression notamment anti-religieuse, la répression contre des groupes sociaux entiers, comme les paysans, elle est connue. On peut la connaître, en tout cas, dès les années 20. Et pourtant, on redécouvre, dans les années 20, au moment des procès de Moscou, au moment de la déstalinisation, et encore peut-être au moment des années 1980-90 avec la chute de l'URSS, on redécouvre cette dimension répressive qu'on va appeler plus tard totalitaire. Et donc, ce que l'on peut dire, je pense, hein, c'est que finalement, l'image, elle est restée quand même assez largement positive, et que donc finalement, cette diplomatie d'influence, elle a très bien fonctionné. Alors, avec une nuance sur laquelle je voudrais terminer, puisque moi je vois finalement deux images de cette révolution et de cette Union soviétique. Celle qui fonctionne le mieux, à mon sens, c'est une image qui va lier le régime soviétique avec la Russie, avec une image nationale. C'est-à-dire qu'on accepte pour la Russie ce qu'on n'accepterait pas pour la France. Et donc on peut être tout à fait pro ou philo-soviétique sans être communiste. De Gaulle, par exemple, va sans aucun état d'âme conclure des alliances, etc., travailler avec les Russes, mener sa géopolitique de puissance nationale, sans du tout, bien entendu, être le moins du monde communiste. Donc la relation avec la Russie, elle reste extrêmement puissante dans ce modèle bolchevique, et c'est le cas aussi pour Pierre Pascal, je pourrais y revenir, mais pour lui, le bolchevisme, au contraire, a trahi le peuple russe. Il n'est pas vrai que le peuple russe soit naturellement, par la supposée âme slave, soumis à la dictature, soumis à un chef qui serait Nicolas II, puis Staline. Il va entrer en lutte contre cette image et montrer, au contraire, que l'espérance de la révolution a été donc, selon lui, déçu par le marxisme. Donc il y a cette lecture en quelque sorte nationale de la mythologie d'octobre, et finalement ce qui reste peut-être le plus énigmatique, c'est l'autre lecture, c'est-à-dire celle qui prend au sérieux la promesse universaliste, ce que l'historien François Furet appelle le charme universel d'octobre, c'est-à-dire l'espérance révolutionnaire marxiste-léniniste, qui mobilise des militants de génération en génération, jusque donc de la fondation du Parti communiste français en 1920, jusque aux années 1980. Alors, cette espérance, ceci dit, à mon sens, elle est aussi beaucoup perçue en fonction de l'histoire nationale, en l'occurrence française, c'est-à-dire de la référence à 1789, à la Commune de Paris, au mouvement ouvrier français. Donc, elle va beaucoup l'octobre 1917 va beaucoup fonctionner comme un mythe, comme une référence finalement relativement lointaine. Et donc, si l'on emploie, et c'est très fréquent, le terme par exemple de foi communiste, ça ne peut être finalement, à mon sens, que par analogie. C'est-à-dire que, de toute façon, ça serait une foi sans transcendance. C'est une analogie qui fonctionne parce qu'on peut, terme à terme, parler de culte, parler de certaines manifestations, justement, d'emprise, de don de soi total. Mais ça a été un débat qui a couru des années 1930, peut-être à nos jours. Cette mythologie soviétique, à mon sens, n'a pas fonctionné comme une foi, et donc s'est éteinte avec le modèle qu'il apportait, c'est-à-dire le modèle d'octobre 1917. Jean-Luc Poutier a choisi le titre de crépuscule d'octobre. Hein. Ce sont là les métaphores de la lumière qui sont utilisées par le socialisme avant 17, mais qui vont être beaucoup utilisées après 17, la grande lueur à l'est, etc. Et puis, effectivement, ce crépuscule est finalement la fin de cette mythologie qui a été aussi rapide hein, que finalement son éclosion.
Merci. Merci à Sophie Queret de nous avoir introduit dans ce parcours historique, dans le cadre de cette soirée d'éthique publique consacrée au crépuscule de la Révolution, un siècle après la Révolution dite d'octobre 1917. Je donne la parole maintenant à Françoise Dossé, qui est plus sur un versant contemporain, mais verra justement comment les événements lointains peuvent avoir encore un impact aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation à venir échanger, débattre, discuter aujourd'hui en ce jour effectivement précis du centenaire hein, de la Révolution d'octobre. Merci pour cette invitation. Donc je vais moi parler plutôt de la société russe actuelle face à l'idée de révolution, puisque comme vous l'avez peut-être déjà lu dans les journaux, hein, le centenaire des révolutions russes de février et octobre 1917 suscite un inconfort manifeste dans la société russe contemporaine. Il est même marqué aujourd'hui par un silence assourdissant et d'une certaine façon le charme d'octobre hein, en Russie même a visiblement cessé d'opérer. Alors je vais vous donner quelques éléments de contexte et de réflexion sur la situation aujourd'hui en Russie et donc ce rapport à la révolution d'octobre. Ça n'a pas vocation à être complètement exhaustif, mais ce sont quelques éclairages sur le crépuscule dont nous parlons ce soir. Donc, aucune grande initiative officielle n'a été mise en place en Russie pour commémorer les événements révolutionnaires de 1917, qu'il s'agisse de ceux de février ou de ceux d'octobre. Mais du côté des cercles contestataires, eux non plus ne se sont pas emparés du centenaire pour faire avancer leur cause et pour mobiliser leurs partisans. De même, en ouvrant les grands journaux russes ce matin, quasiment aucun d'entre eux ne titrait sur le centenaire de la Révolution. Donc ce que je voudrais faire, c'est revenir sur les raisons hein, de ce silence, de ce malaise diffus à l'égard du passé révolutionnaire en Russie. Alors ce malaise, cet inconfort a plusieurs explications que je vais présenter. Je voudrais insister sur cette diversité en fait des explications de ce malaise vis-à-vis de l'héritage révolutionnaire, parce qu'en fait différents points de vue coexistent dans la société russe aujourd'hui sur l'expérience révolutionnaire. Donc il ne faut pas penser qu'il y a une forme d'unanimisme ou de désintérêt complet pour la révolution. Il me semble qu'en fait, il existe différents points de vue sur l'héritage de 1917. La difficulté en Russie aujourd'hui, c'est que ces différents points de vue ont du mal s'exprimer dans le cadre d'un débat public, puisque, comme vous le savez, l'espace public en Russie est très fortement contraint. Et d'une certaine façon, cet inconfort à l'égard de l'héritage révolutionnaire, il témoigne aussi de la difficulté à avoir un débat public ouvert dans la société russe aujourd'hui. Comme vous le savez, les principales arènes de discussion politique, et notamment la Douma, hein, sont entièrement contrôlées par le parti du pouvoir. Les principaux médias, eux aussi, sont très encadrés par les autorités politiques. Et donc, la difficulté est aujourd'hui à parler de 1917, témoigne donc de cette difficulté à mener un débat public en Russie. Alors je vais revenir d'abord sur différents points de vue qui existent aujourd'hui à l'égard de la révolution d'octobre, en évoquant d'abord la position des autorités russes, en évoquant ensuite celle du Parti communiste de la Fédération de Russie, et en m'intéressant ensuite aux forces libérales et démocrates en Russie. Et puis enfin, je voudrais montrer ou évoquer quelques initiatives qui se sont élaborées hors de l'espace politique pour parler autrement du centenaire de 1917. Voilà. Alors, les autorités russes, donc les autorités, le gouvernement russe, qui est pourtant très friand ou très prompt à organiser de grandes célébrations des victoires militaires sur la place Rouge, hein, notamment à l'occasion de la victoire du 9 mai dans la Seconde Guerre mondiale, donc n'a pas souhaité faire honneur à la Révolution. Et les commentateurs considèrent généralement que cette discrétion à l'égard du passé révolutionnaire s'explique d'une certaine façon par une très très grande méfiance à l'égard de tout ce qui peut rappeler une contestation par la rue des pouvoirs en place, dans un contexte qui a été marqué quand même, vous en souvenez peut-être, en 2011-2012 par des grandes manifestations contre la fraude électorale dans les grandes villes de Russie, notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, qui a quand même des grandes manifestations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et qui ont montré qu'il y avait des forces protestataires qui étaient actives en Russie. Et puis, vous le savez aussi, hein, des élections présidentielles vont avoir lieu en mars 2018. On est aussi dans un contexte préélectoral. Mais cette méfiance face à l'héritage d'octobre n'est pas nouvelle, et je voudrais simplement rappeler ici que depuis 2005, le jour, la fête de la révolution d'octobre, le 7 novembre, a été remplacée par une autre fête qui a lieu le 4 novembre, qui est le jour de l'unité nationale en Russie. Donc depuis 12 ans, il n'y a plus de jour férié officiel pour commémorer la révolution d'octobre. La fête du 4 novembre donc est une fête donc dite de l'unité nationale, qui célèbre la fin du temps des troubles et de l'occupation étrangère dans la Russie du début du XVIIe siècle. Donc là, c'est un autre événement historique très très différent, qui a été utilisé par le pouvoir pour mettre en place cette nouvelle fête nationale. Et donc depuis 2005, c'est l'unité nationale qui est célébrée à la place de la révolution. Cette année, à l'occasion de son discours pour la fête de l'unité nationale, donc le 4 novembre, Vladimir Poutine a fait une déclaration, je vais vous en lire un extrait. Il a déclaré, donc, c'est Vladimir Poutine qui parle, « Je vous souhaite une bonne fête de l'unité nationale dont les racines remontent loin dans le passé. Quatre siècles nous séparent des événements dramatiques qui ont vu le peuple se soulever contre les troubles et la désintégration du pouvoir, surmontant les divisions internes et la menace étrangère pour réaffirmer la dignité et l'indépendance du pays. » Et donc c'est clairement un message qui met en garde contre les troubles, hein, en reprenant en référence à cette période du temps des troubles, et qui met en garde aussi contre l'affaiblissement du pouvoir. Et d'une certaine façon, hein, c'est une façon de prendre position aussi contre les troubles révolutionnaires qui sont ceux qui ont marqué l'année 1917 en Russie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de ce discours du 4 novembre, lors de la réception du 4 novembre, un certain nombre d'invités étaient présents, et l'un d'entre eux a fait un discours de remerciement pour le président Vladimir Poutine en lui disant « Vladimir Vladimirovitch, vous êtes le seul dans l'histoire de notre État qui n'a démonisé ni la période impériale ni la période soviétique. Au contraire, vous avez rétabli le fil du temps historique, permis la réconciliation des acteurs des guerres civiles, des anciens ennemis de classe et des antipodes politiques. » Et donc c'est un narratif de la continuité historique qui est mis en avant par le pouvoir russe. Et dans ce narratif de la continuité historique, la période des oppositions révolutionnaires ne trouve pas vraiment sa place. Et ce qui est aussi assez fascinant, c'est cette capacité à déconnecter l'héritage de la révolution d'un côté, à se séparer de l'héritage de la révolution d'octobre, mais tout en gardant l'héritage de la période soviétique. Donc là, on a des choix historiques qui sont tout à fait surprenants. Voilà. Et je rajouterai simplement, très rapidement, que cette journée de l'unité nationale, donc célébrée le 4 novembre, est généralement l'occasion, dans les rues de Moscou, de manifestations des mouvements russes nationalistes et d'extrême droite, rassemblés pour ce qui s'appelle la marche russe, et qu'on a vu à nouveau présents dans les rues de Moscou cette année, donc les mouvements nationalistes extrêmes qui se sont emparés de cette fête de l'unité nationale. Voilà. Donc ça, d'une certaine façon, un petit peu, c'est ce qui s'est joué, ce sont les relectures qui se jouent du côté des autorités russes. Alors, quels sont les autres discours ou les autres mémoires de la révolution de 1917 qui coexistent avec, avec cette position officielle? Alors, je voudrais dire quelques mots de la façon dont le Parti communiste de la Fédération de Russie a mis en scène cet anniversaire de la révolution d'octobre. Donc, le Parti communiste de la Fédération de Russie occupe une place assez spécifique dans le paysage politique russe actuel, hein, puisque c'est un parti qu'on dit dans le système, c'est-à-dire qui dispose de députés à la Douma d'État et qui, est accepté à la Douma et participe à l'élaboration de la politique russe. Donc, seul le Parti communiste donc a tenté de célébrer la mémoire du Grand Octobre. Et si on regarde le site internet, si on ouvre le site internet du Parti communiste de la Fédération de Russie, on peut lire encore hein, « La lumière d'octobre éclaire l'avenir ». Et le Parti communiste donc a organisé une série d'événements du 1er au 8 novembre pour fêter donc les 100 ans de la Révolution. À Saint-Pétersbourg notamment, une visite des hauts lieux de la Révolution a été organisée avec la visite du palais de Smolny, la visite du bureau de Lénine, une excursion sur le croiseur Aurore ou une visite du palais d'hiver. Voilà, et un meeting était prévu aujourd'hui sur la place Pouchkine à Moscou. Alors, donc, célébration, évidemment, d'une certaine façon, de la révolution d'octobre. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que sur cette page internet du Parti communiste russe, on trouve, voilà, c'est, comment dire, des éléments d'information sur l'anniversaire de d'octobre 1917, mais on trouve aussi en dessous un portrait de Staline, puisque Staline est revenu, hein, a été réintégré dans la mémoire politique portée par le Parti communiste de la Fédération de Russie. Et donc l'héritage d'octobre qui est mis en lumière, c'est aussi un héritage accepté du stalinisme. Alors, du côté des mouvements critiques et d'opposition, évidemment, l'inconfort face à l'héritage d'octobre est aussi très grand, mais les justifications en sont très différentes. Alors là, du côté des partis libéraux et démocrates russes, ces partis sont extrêmement affaiblis. En Russie, ils n'ont plus de siège au Parlement depuis 2003. Mais on voit tout de même hein, des prises de parole du côté de ces forces libérales et démocrates. Et si on prend le parti Yabloko, qui est le parti libéral russe, la seule mémoire acceptable de 1917, c'est la mémoire de février. De la révolution, donc de février 1917, puisque pour ces libéraux et démocrates, en février, la démocratie a gagné en Russie, les lois les plus progressives ont été adoptées, les citoyens ont obtenu des droits politiques maximaux, et la question étant pourquoi cette démocratie a-t-elle été si brève? Voilà. Et dans ces cercles libéraux et démocrates, on trouve donc le parti Yabloko, je vais revenir là-dessus, on trouve aussi Xenia Sobchak, dont j'évoque le nom, parce que si vous vous intéressez à l'actualité russe, vous avez peut-être lu qu'elle était candidate à la présidentielle de mars 2018. Voilà, une candidate assez contestée, enfin voilà, dont on peut discuter, mais qui se situe dans ces cercles libéraux et démocrates. Voilà. À l'inverse, pour ces cercles libéraux, évidemment, la mémoire d'octobre n'est pas acceptable, ne peut pas être reprise. Et Grégory Yavinsky, notamment du parti Yabloko, rappelle que l'Assemblée constituante de 1918, qui devait légitimer la démocratisation du pays, a été dissoute par les bolcheviks qui avaient perdu les élections. Et il tire un parallèle, en fait, avec la situation contemporaine, en estimant que le pouvoir russe actuel est un pouvoir autocratique bolchevique qui refuse de reconnaître les crimes du régime soviétique qui trouvent leur origine en octobre 1917. Et pour Grigori Yavlinsky, donc ce leader libéral, depuis 1917, la Russie est dirigée sans interruption par des bandits. Voilà, donc aussi du côté de l'opposition, hein, un refus d'octobre. Alors, mais avec cette difficulté qui se pose en Russie, qui est de l'impossibilité, au fond, d'avoir un discours, un débat autour d'octobre, entre des forces politiques qui sont très inégales, hein, entre un parti du pouvoir très dominant et des forces libérales très marginalisées. Et ce constat d'une absence de débat contradictoire a été bien établi par un autre acteur de l'espace politique russe qui est Alexei Navalny, dont vous avez aussi peut-être entendu parler, qui est peut-être actuellement le plus charismatique de ces leaders de l'opposition, qui est aussi un personnage controversé, qui a fréquenté les rangs libéraux et démocrates du parti Yabloko, mais qui a aussi fréquenté les nationalistes d'extrême droite qui défilent lors de la marche russe que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il a Alexei Navalny est très aime beaucoup les nouvelles technologies et Internet, donc il a enregistré une vidéo sur sa chaîne YouTube ce week-end pour évoquer l'anniversaire d'octobre 1917. Et dans cette vidéo, il rappelle donc que la révolution, alors là je le cite, là c'est Alexei Navalny qui parle, la révolution, ce sont des événements terribles qui ont eu une influence sur chaque famille russe. Aujourd'hui encore, chaque rue dans le pays porte le nom d'un révolutionnaire russe. Et pourtant, aucune célébration officielle n'est prévue. Le pouvoir fait comme s'il ne savait pas. Ce souvenir de la révolution est désagréable pour le pouvoir. Or, il faudrait parler du bilan de la révolution, avoir un débat, aider les historiens à travailler sur cette période. Et donc là, ce que demande Navalny, donc c'est un débat sur cette période révolutionnaire, ce fameux débat qui ne peut pas avoir lieu, au fond, faute d'espace et d'arène pour l'organiser. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont Alexei Navalny insiste sur la dimension, au fond, familiale et intime de l'expérience de la révolution, en rappelant que la révolution a touché chaque famille russe. Voilà. Alors enfin, et pour terminer mon tour d'horizon qui est partiel, hein, qui n'est pas exhaustif, je voudrais finir sur des initiatives ponctuelles relatives donc à ce centenaire de 1917 qui ont pu surgir ici et là en Russie et qui tentent de donner une autre vision du passé révolutionnaire. Une autre vision qui est souvent ancrée dans une relecture des trajectoires personnelles dans les tourments du changement de régime. Donc c'est cette dimension très personnelle, presque privée en fait de la révolution qui surgit dans un certain nombre d'initiatives qui ont été prises autour de 1917. Et c'est alors donc une autre histoire qui va être proposée, une autre histoire donc sans gloire d'une certaine façon, celle de parcours personnel qui se dessine en retrait de la grande histoire politique. Alors je voudrais en donner un exemple concret. Donc dans ce contexte au fond d'évitement du débat politique autour de la mémoire d'octobre, l'une des initiatives les plus marquantes peut-être est venue d'un groupe de journalistes moscovites, familier là aussi des nouvelles technologies, et notamment d'un journaliste qui s'appelle Mikhail Zigar, qui est l'ancien rédacteur en chef de la chaîne de télévision indépendante Deutsch, qui est cette chaîne assez critique, qui rencontre périodiquement des difficultés dans ses relations avec le pouvoir, mais qui essaye de proposer d'autres contenus médiatiques plus critiques. Et donc ce journaliste a lancé au début de cette année, donc 2017, un projet médiatique en ligne qui s'appelle 1917, une histoire libre. Et en fait, c'est un projet assez surprenant puisqu'il s'appuie complètement sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies, notamment par les réseaux sociaux. C'est un projet sur la révolution d'octobre qui est développé sur Facebook, donc en fait qui est sur un réseau social et qui se présente sous la forme d'un réseau social où chaque jour un certain nombre de personnages liés à la révolution postent des notes sur l'actualité et se commentent les uns les autres sur Facebook. Donc c'est une expérience assez surprenante d'utilisation des réseaux sociaux pour parler de la révolution. Donc Nicolas II, Félix Dzerzhinsky, Ivan Bounine laissent des messages sur Facebook et ces messages en fait sont tirés de sources historiques qui sont des extraits de journaux, des extraits de carnets intimes, des extraits de mémoires qui ont été retravaillés par les journalistes pour en faire cette mise en scène médiatique sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est dans un style très branché. On voit donc se dessiner au jour le jour, donc chaque jour depuis janvier 1917, un certain nombre de commentaires tirés de ces mémoires, documents personnels, apparaissent sur les réseaux sociaux pour commenter l'actualité de l'année 1917. Et donc, j'ai regardé hier soir. Alors, c'est dans un style très étonnant. Il était écrit hier soir, « Attention, urgent, c'est la révolution en direct. Il y a un coup d'État en Russie. Nous suivons l'évolution des événements. » Donc, un style très, très journalistique, mais avec cette thèse du coup d'État qui est présente. Et donc, le blog donne minute par minute les nouvelles de Petrograd et il est illustré aussi de photos d'époque. Alors, Mikhail Zigar, outre ce projet sur Facebook, en a tiré un livre de 900 pages qui vient d'être publié en Russie et qui s'appelle « L'Empire devait mourir », qui est consacré donc aux événements de 1917, mais qui est plutôt consacré aux tourments privés des personnages impliqués dans la révolution d'octobre, qui reprend en fait les carnets privés, ce que je disais, les documents personnels des artistes, des écrivains, des révolutionnaires, des ministres ou des membres de la famille impériale. Et l'idée donc c'est de dessiner une histoire personnelle de la révolution, qui est aussi en partie un parallèle avec la situation de la Russie actuelle, un parallèle qui met qui met face à face l'autoritarisme du pouvoir d'un côté et d'une certaine façon l'insouciance des élites libérales de l'autre. Voilà. Donc pour conclure, cette mémoire d'octobre, on voit qu'elle est très absente de l'espace public institutionnel russe aujourd'hui et élite au fond comme opposition se tiennent à l'écart de cette mémoire d'octobre, les uns par méfiance à l'égard du modèle révolutionnaire, les autres par dénonciation de la terreur. Et faute au fond d'espace de débat pluraliste dans le pays, la discussion sur octobre 1917 n'a pas lieu dans la Russie aujourd'hui. Et seuls donc ces interstices médiatiques en ligne, notamment sur Internet, qui restent quand même assez disponibles pour des innovations, notamment journalistiques. Donc seuls ces espaces médiatiques sont investis par des témoignages et des récits de la Révolution, mais on voit se dessiner là une histoire privée plutôt de la Révolution qui laisse à distance la grande histoire politique qu'on a pu connaître par le passé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci à Françoise Dossé de nous avoir brossé ce tableau à la fois d'une absence de mémoire et de la construction manipulatrice de mémoire sélective qui s'entrechoquent les unes les autres. Je ne sais pas si Sophie Queré veut réagir à ce que nous venons d'entendre. J'aurais de mon côté une question à lui poser parce que cette influence de la Russie soviétique en France et cette image assez positive, elle est un peu aujourd'hui oubliée. Il y a eu de vrais agents d'influence qui n'étaient pas tous communistes, loin de là, y compris dans des formations politiques de droite, et leur histoire n'a pas toujours été écrite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment en Russie même les Russes voyaient la réception de cette propagande en Occident, parce que par exemple quand Solzhenitsyn est arrivé en Occident, les critiques qu'il a pu formuler à l'égard de l'Occident ont semblé assez dures et pas toujours très bien reçues. On s'attendait à ce qu'il soit content d'être là et il ne l'était pas tant que ça.
Merci Jean-Luc. Je vais répondre et puis ensuite j'aurai une question peut-être pour Françoise Dossé. Les sources du coup sont peut-être plus difficiles d'accès. Je ne peux pas répondre tout à fait globalement. Ce que je peux dire, c'est que il y a dans les années 1920-1930 une mobilisation de la société soviétique autour de ce projet. Qu'il y a véritablement des hommes et des femmes qui vont s'engager pour propager cette image positive, qui vont être par exemple les guides ou les intellectuels.
Et donc, ils vont être fiers de porter ce modèle, puisque depuis Pierre le Grand, la Russie était présentée comme étant attardée, comme suivant l'Occident. Et là, le modèle s'inverse. Donc, je pense qu'il y a véritablement cette fierté, mais il y a aussi très rapidement, et en tout cas à partir des années 1930, un énorme malaise de la part de ces médiateurs qui se trouvent entre deux mondes, qui d'un côté profitent aussi de ce contact avec les Occidentaux, même de façon très matérielle, avec des livres, avec des bas de soie pour les dames, etc., mais qui aussi se voient donc obligés d'entrer dans un système où, par exemple, ils font un rapport tous les soirs sur leur invité qui voyage n'ont pas évidemment le droit de tout montrer et de tout dire. Donc il y a cette zone grise qui fait partie de la compréhension de ces régimes autoritaires ou totalitaires. Et puis après 1945, il y a aussi, cette dimension de patriotisme soviétique que Françoise Dossé connaît bien et qui a beaucoup remobilisé la société soviétique, mais ce n'est plus l'octobre 17, hein, c'est vraiment c'est la victoire sur le fascisme, c'est l'antifascisme aussi qui a été si important des deux côtés, aussi bien en Occident qu'en URSS, et donc qui va aussi jouer ce rôle et expliquer finalement que la critique qui vient de l'intérieur de la Russie, notamment celle de Solzhenitsyn, au départ au moins, et celle des dissidents, n'est pas une critique anticommuniste ou antisoviétique. C'est une critique qui va remettre en question la réalité du régime tel qu'il existe, mais qui ne va pas vouloir tout mettre à bas, qui va vouloir au contraire, quelque part, améliorer le socialisme ou le changer. Alors, si j'ai encore une seconde, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant ce que Françoise Dossé a dit sur l'échelle individuelle et biographique, qui effectivement est très présente, et on comprend aussi pourquoi, aussi du côté des historiens, et des historiens russes aussi bien qu'américains ou français. Alors, parce que, bien sûr, elle permet de passer par-delà ces grands récits mythologiques et simplifiés. Mais moi, il me semble aussi que du côté russe, c'est aussi qu'elle permet aussi peut-être de parler de la Révolution alors que la mémoire de la Révolution n'est plus vivante. C'est-à-dire que c'est la mémoire du stalinisme qui est vivante. Ça n'est pas une question de durée. Par exemple, on voit qu'en France, là, me semble-t-il, quelque part, on l'a vu avec la grande collecte de 2014, la mémoire de la guerre de 14, par exemple, est relativement vivante dans les familles qui se transmettent justement des documents privés, etc. Or là, cette mémoire de 1917, elle a été complètement coupée justement par le stalinisme qui a disloqué la société. Françoise voudra répondre ou infirmer, mais il me semble que ça n'est pas seulement une question d'espace politique, c'est aussi peut-être le fait que finalement il n'y a pas vraiment d'intérêt réel. Parce que aussi, c'est une histoire qui est quelque part très très lointaine. Très peu de familles sont restées, ont gardé une mémoire vivante, une mémoire aussi documentaire avec des carnets, des cartes postales, etc., qui irait de 1917 à 2017.
Françoise Dossé.
Je suis tout à fait d'accord, mais il me semble quand même que, cet intérêt renouvelé pour la dimension biographique et qui est effectivement une dimension qu'on voit beaucoup dans les travaux d'historiens aussi aujourd'hui, hein, c'est vraiment cette travail sur ce qu'on appelle les égaux documents qui vaut là pour ce que j'ai dit sur la révolution d'octobre, mais qui vaut aussi pour beaucoup d'autres périodes et notamment qui est une façon de revisiter aussi l'histoire du stalinisme par exemple, hein, et de s'éloigner de un petit peu de l'histoire institutionnelle qui peut-être effectivement suscite moins d'intérêt. Donc ce mouvement-là, il est très important et donc je suis d'accord hein, sur ce rapport distant à la révolution de 1917, mais il me semble qu'il pose quand même la question du débat politique, de comment est-ce qu'on parle politique autour de ces événements révolutionnaires.
Et ce vide que vous décrivez, ce vide de la mémoire de 1917, si on le compare, alors bon, c'est toujours un peu artificiel, mais avec ce qui s'est passé pour le centenaire de la Révolution française, par exemple, est-ce que il y a des éléments qui permettent de comprendre pourquoi que dans l'un des cas la production de discours sur la mémoire des événements révolutionnaires était très forte, très dense, et que dans le cas de la Russie d'aujourd'hui, eh bien, c'est le vide que vous avez décrit.
Alors c'est vrai que le parallèle est frappant, puisqu'effectivement à l'occasion des célébrations du bicentenaire de la Révolution française, il y avait eu énormément de mises en scène, voilà, c'est même grandiose, hein, de ce bicentenaire. Pour la Révolution d'octobre en Russie, bon, ce sont les éléments que j'ai essayé de donner, c'est-à-dire qu'effectivement est difficile aujourd'hui pour les autorités russes d'investir ce moment révolutionnaire comme il a pu être investi par le passé. Donc là, moi, je l'analyse quasiment uniquement par le contexte politique qui n'est pas favorable à un débat et à une discussion autour de ces événements révolutionnaires. Mais c'est vrai que c'est une lecture très politique de la situation.
Merci à Sophie Curé et Françoise Dossé d'avoir participé à ce mardi d'éthique publique consacré donc au centenaire de la révolution d'octobre qui a commencé dans notre calendrier à nous un 7 novembre, il y a précisément un siècle, et nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous pour une prochaine rencontre des mardis d'éthique publique début le premier mardi du mois de décembre.
Voilà, donc maintenant nous sommes entre nous. On n'a plus la radio. Non, mais c'est pas la fin de la soirée. Hein. C'était simplement, comme vous l'avez annoncé au départ, la fin de la retransmission à la radio. Donc il fallait marquer une fin formelle. Bon, nous avons encore devant nous une demi-heure pour continuer le débat. Donc, comme de tradition, de micros vont circuler dans l'Assemblée et nous allons rassembler plusieurs questions. Voilà. Donc alors, il y a peut-être commencer par une question de Bordeaux. Merci de me rappeler que Bordeaux nous écoute.
Ah oui. Alors, faut-il lire dans la désaffection pour l'idéologie révolutionnaire une perte d'espérance dans tout mouvement de lutte contre les inégalités ?
Alors, peut-être reprendre la question, parce que...
Faut-il lire dans la désaffection pour l'idéologie révolutionnaire une perte d'espérance dans tout mouvement de lutte contre les inégalités ?
Merci. Nous retenons la question. On va prendre maintenant deux questions de la salle. Alors, qui se lance ? Ah, une question au centre. Monsieur.
Merci beaucoup. Reste-t-il aujourd'hui une place pour les études marxistes en Russie et ont-elles une résonance quelconque ?
Merci. Alors, une troisième question. Voilà, il y a une main qui se lève devant. Ah non, ça commence derrière. Bon, tout à l'heure, vous aurez... Voilà.
En France ? La révolution du mois d'octobre crée justement l'éclatement de la SFIO, avec d'un côté le Parti communiste qui s'implante et de l'autre côté les socialistes. Ça va donner la CGT, FO, etc. Enfin, tout le mouvement syndical en particulier va éclater. Alors, jusqu'au moment où on va découvrir un peu... L'opinion française va découvrir les crimes de Staline. Alors, ça bougera, etc. Mais pendant toute une période, jusqu'à l'après-guerre, eh bien, il y aura toute une couche de la population ouvrière française qui ira faire des voyages dans les pays qui seront sous obédience communiste, etc. Ça sera... On porte le petit père du peuple au parois.
Oui, si je peux me permettre de traduire éventuellement la question, c'est pourquoi finalement la propagande, enfin l'efficacité de la propagande et aussi qui rejoint peut-être un espoir, celui de la première question. Bien, merci pour cette première série de questions. Alors, qui prend quelle question? Qu'est-ce qui vous inspire? Allez-y.
Je peux lier les deux questions sur espérance, ou du moins dans la rupture révolutionnaire et lutte contre les inégalités. Et puis votre question, monsieur, sur finalement le fait que le Parti communiste naît en 1920 de, finalement, la révolution d'octobre et de l'internationale communiste et portait les luttes ouvrières pendant un certain temps. Et porté par aussi le vote ouvrier. Hein. Ce n'est que à la toute fin des années, ce n'est que dans les années 1990 que le vote ouvrier a cessé d'être finalement massivement communiste. Donc, alors ça, je pense qu'on peut y répondre. Alors la première question, non, bien sûr que non, puisque ce n'est pas seulement la révolution telle que portée par le marxisme-léninisme. Qui a porté le combat contre les inégalités. Il y a eu un socialisme non communiste, il y a eu un christianisme social. Donc le combat contre les inégalités, ça n'est pas seulement la rupture révolutionnaire, et c'est le vieux débat aussi entre révolution et réforme, réformisme. Et ce débat, c'est vrai qu'il a été dans un premier temps en quelque sorte perdu, on peut dire, finalement, peut-être par les socialistes à l'époque de la SFIO, puisque la masse ouvrière s'est assez largement ralliée au Parti communiste. Et c'est là aussi où ça fera la transition avec la réponse au marxisme en Russie, mais c'est aussi la puissance, je pense, de la pensée marxiste et de l'analyse marxiste en termes de classe. C'est-à-dire cette pensée qui va opposer non pas le peuple aux élites, mais véritablement deux classes, parce qu'on peut être faire partie du peuple et, selon les communistes, être un traître, ne pas être communiste. Deux classes qui sont véritablement le moteur de l'histoire. Donc il y a cette lecture extrêmement puissante qui va porter justement cette expérience dans l'avenir, cette lecture linéaire, cette idée que nécessairement, puisque le socialiste est scientifique, nécessairement la révolution marxiste éclatera et que le prolétariat aura le pouvoir. Donc il y a cette prise en charge du combat ouvrier qui est aussi portée par une organisation, qui est portée aussi par une adhésion, par une le fait que les ouvriers sont aussi portés aux responsabilités politiques, dont ils étaient exclus. Qui va beaucoup, à mon sens, expliquer cette force de mobilisation, aussi bien syndicale avec la CGT et aussi que politique avec le Parti communiste. Et c'est ça qui va s'effriter à partir dès les années 60, en fait. Quand la société française change, il n'y a plus cette puissante classe ouvrière liée à l'industrie, de l'automobile, etc. Le Parti communiste va toucher d'autres couches sociales, mais ne peut plus porter cette vision simpliste, en fait, de la société divisée en classes.
Alors, passons à la question aux études marxistes. Oui. Une petite anecdote, peut-être. Quand à la fin des années 70, on avait reçu ici un célèbre dissident, Dimitri Panine, il avait été scandalisé de voir qu'au centre Sèvres, il y avait des études marxistes. Alors, est-ce qu'en Russie, il y a encore des études marxistes?
Alors, à la fois pour répondre à la question sur les études marxistes et sur la question de l'espérance face au mouvement de lutte contre les inégalités, effectivement, ce mouvement marxiste aujourd'hui en Russie est extrêmement marginalisé et voilà, extrêmement minoritaire. Ce qui ne veut pas dire que le discours proposé par le pouvoir soit en rupture complète avec l'expérience soviétique, mais ce que les autorités actuelles retiennent de l'expérience soviétique, c'est essentiellement toute la dimension patriotique de grande puissance, toute l'affirmation en fait de la grandeur de la Russie à l'intérieur du pays et sur la scène internationale. Donc c'est vraiment ce discours patriotique qui a ressurgi très fortement depuis le début des années 2000 et qui est un discours patriotique qui, de façon parfois paradoxale ou mal comprise, s'accorde assez bien avec certaines formes du libéralisme. Et donc, on a souvent tendance à parler de la Russie comme d'un système néo-soviétique ou néo-autoritaire, donc comme un rejet, disons, de la période soviétique. Et d'une certaine façon, Vladimir Poutine, par son parcours voilà, donne crédit à cette lecture, hein, puisque lui-même vient du KGB, est un, voilà, un officier, un ancien officier du KGB. Mais ce qu'on voit se jouer en Russie aujourd'hui, c'est plutôt une articulation entre patriotisme d'État d'un côté et forme de libéralisme de l'autre, hein, avec des modalités de gestion de la société qui sont fondées sur des principes de management qui ne sont pas complètement, qui ne nous sont pas complètement étrangère. Donc quand on regarde au concret comment fonctionne le régime politique russe actuel, il emprunte aussi beaucoup à des dispositifs qui sont des dispositifs que nous connaissons très bien. J'avais essayé d'en faire la démonstration dans une recherche que j'avais faite sur la notion de société civile, par exemple, qui est une notion qui a été complètement reprise par le pouvoir russe actuel. C'est-à-dire que Vladimir Poutine n'hésite pas à dire qu'il est en train de construire une société civile dans son pays, parce qu'il a investi cette notion d'un sens complètement différent et de projets complètement différents, mais en reprenant un certain nombre de dispositifs qui sont ceux du fonctionnement sur projet, en jouant sur les questions de financement, etc. Donc, tout cela pour dire qu'il ne reste cette vision grandiose au fond du soviétisme qui est reprise à son compte par le pouvoir actuel, mais il ne reste pas grand-chose des études marxistes au fond dans la société russe aujourd'hui.
J'aurais une question complémentaire qui porterait sur le double discours, parce que lorsque rétrospectivement on regarde ce qui était produit universitairement à l'époque soviétique, enfin je connais pas bien l'Union soviétique, mais d'autres pays du bloc socialiste sur le plan de la recherche scientifique, sciences humaines ou sciences dures, le passage par la référence au marxisme était obligatoire. Toujours. Mmh. Bon. Mais l'existence de Lysenko a pas empêché les Russes d'être les premiers à envoyer un satellite dans l'espace. Donc, y avait manifestement là un dédoublement de la personnalité qui, chez les chercheurs, mais aussi sans doute chez les intellectuels et chez tout le monde, devait jouer. Alors, qu'est-ce qu'il en était à l'époque stalinienne? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on continue à fonctionner sur ce dédoublement, ou est-ce qu'il s'est produit quand même une réunification de la pensée et de l'action sur d'autres critères que entre guillemets, hypocrisie de la référence obligatoire qui était en vogue dans le système soviétique?
Oui, je crois que c'est vrai que cette référence à l'idéologie s'est assez rapidement finalement peut-être vidée de son sens. Et que il y avait ces passages obligés, mais que en même temps ça a profondément influencé, par exemple, l'écriture de l'histoire. Alors la science aussi, hein, malgré tout, puisque la biologie soviétique n'a pas eu que des succès au moment de Lysenko. Donc la physique, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est vrai que l'idée que ça, c'est quelque chose qui devient finalement formel et une référence, je ne sais pas, parce que chaque génération aussi s'est appropriée à finalement essayer de faire évoluer cette idéologie. Mais c'est vrai que ça ouvre sur une autre question qui est quand même, je pense, une grande question pour les historiens et qui rejoint ce que disait François sur le patriotisme, c'est-à-dire comment est-ce que le communisme, qui est un internationalisme marxiste, se mue, se transforme en nationalisme. La semaine dernière, c'était les congrès du Parti communiste chinois. Donc la Chine est un exemple quand même assez fascinant d'un pays qui reste communiste. Donc, la Corée du Nord, c'est un peu différent, mais la Chine se veut complètement communiste et reste dans la symbolique, dans le discours, etc., et se transforme en un nationalisme, et en plus, économiquement, avec ses formes libérales de concurrence, etc. Donc, ce sont des questions qui restent ouvertes à mon sens dans cette durée du XXe siècle.
Oui, sur cette question du dédoublement, alors pour la Russie contemporaine, il a souvent été pensé aussi ce dédoublement comme une forme d'opposition entre le formel d'un côté et l'informel de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les pratiques informelles en Russie, sur la façon en fait dont les gens s'adaptent, contournent, vont au travail sans travailler, mais en y faisant autre chose. Donc il y a eu voilà toute cette toute une vague de recherches qui montrait en fait que tout cela fonctionnait aussi en partie parce qu'il y avait une forme d'autonomie sociale hein, et une grande place donc accordée aux relations personnelles donc aux relations informelles. Ce qui me semble important, c'est de réussir à penser quand même en même temps le formel et l'informel, parce que les deux, on peut pas trop dissocier les deux. Et il y a un collègue américain d'origine russe qui l'a fait, qui s'appelle Alexei Yurchak, qui était de montrer dans un livre qui s'appelle Tout était pour toujours jusqu'à ce que ça disparaisse, où il y a ce jeu en permanence sur le respect des formes et en même temps leur investissement parfois par des projets contradictoires. Et d'une certaine façon, je ne sais pas, c'était en écoutant Sophie Curé tout à l'heure qui évoquait cette difficulté à la période soviétique à élaborer un contre-récit face à la propagande soviétique. Cette difficulté à élaborer un contre-récit, elle est liée aussi à cette question des formes qui vont être investies par le projet soviétique à l'époque et par le projet russe patriotique actuel, puisqu'on voit aussi une capacité des autorités russes, c'est clairement le cas aujourd'hui, à investir des formes extrêmement modernes, parfois contradictoires, pour faire passer leur message. C'est-à-dire qu'ils reprennent en fait à leur compte un certain nombre de savoir-faire et de formes qui sont extrêmement modernes et avancées. Voilà. Donc je sens que ce jeu du formel et de l'informel, il doit être vraiment pensé ensemble.
Merci. Alors reprenons une série de questions. Alors il y a une main qui s'était levée devant. Parlez bien dans le micro.
Oui, pardon. Comment aujourd'hui la presse quotidienne russe, en particulier la Pravda, a titré sur ce centenaire? Si vous permettez, j'avais une autre question. Dans le prolongement du centenaire de la Révolution, comment imaginez-vous que sera célébré l'année prochaine, en particulier par l'Église orthodoxe, le centenaire de l'assassinat de la famille Romanov?
Alors, ouais. Autre question. Ah, il y a une main qui se lève vers le fond. Le monsieur au pull vert blanc.
Dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, j'aimerais savoir quel rôle nos conférenciers donnent à l'Église orthodoxe aujourd'hui, et quelle est sa mémoire à elle, comment interprète-t-elle ou qu'est-ce qu'elle donne du récit de la Révolution?
Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? On peut rester à ces deux questions. Bon, restons-en à ces deux questions. Alors, à la fois, donc la presse, vous aviez déjà dit un petit mot sur la presse russe actuelle, et puis ensuite les Romanov et l'Église.
Alors sur la presse russe actuelle et sur la Pravda, c'est une question tout à fait intéressante, puisque la Pravda continue d'exister sous deux formes très étranges, pas complètement étranges, mais quand même. D'une part, la Pravda est redevenue d'un côté le quotidien ou le journal du Parti communiste de la Fédération de Russie. Donc en fait, le PCRF a repris la main sur la Pravda et donc a publié des articles célébrant la mémoire d'octobre comme il l'a fait sur son site. Ce qui est assez étrange, c'est quand on regarde regarde sur Internet, à nouveau, on trouve des choses vraiment bizarres. Il y a un site qui s'appelle pravda.ru, qui donc reprend le titre soviétique, mais avec un contenu complètement différent. Donc vous avez deux choses, vous avez deux Pravda qui coexistent actuellement. La Pravda qui est celle du Parti communiste et une autre utilisation du titre Pravda, qui avec des contenus là extrêmement nationalistes, xénophobes, voilà, qui sont complètement à l'opposé de voilà. Donc c'est assez voilà, c'est assez intéressant de le penser aussi sur qu'est-ce que sont devenus ces titres de la période soviétique. Comment en est-on arrivé là à avoir à cette double trajectoire du titre Pravda qui mène d'un côté vers le Parti communiste de la Fédération de Russie et de l'autre vers les formes nationalistes extrêmes. Voilà. Donc pour répondre à cette question précise sur par contre le centenaire de l'assassinat de la famille Romanov, très honnêtement j'ai du mal à vous répondre. Je ne sais pas du tout voilà, ce qui sera prévu, mais bon, il y aura probablement des choses, et aussi dans ce grand mouvement d'intérêt pour l'histoire d'une certaine façon très personnalisée, privée des événements révolutionnaires. Voilà.
Oui, puis je crois qu'on verra de façon intéressante les paradoxes de l'Église orthodoxe russe actuelle, du moins du patriarcat de Moscou, hein, qui a justement repris la main aussi en grande partie sur l'Église de l'émigration dans son conflit, avec par exemple là, un conflit autour de l'Église de Nice, parce que l'Église orthodoxe tient un discours extrêmement négatif sur la Révolution. Je les ai encore entendus il y a peu de temps au Centre culturel russe, donc à l'ambassade de Russie, avec cette nouvelle église cathédrale qui a été construite au Quai Branly, hein, qu'on voit bien dans le paysage parisien. Donc un discours extrêmement négatif, et il faut rappeler que Nicolas II donc, et toute la famille ont été canonisés, hein, donc ce sont des saints de l'église orthodoxe. Et puis il y a cette polémique sur le film présentant les amours du tsar avec la ballerine, donc qui a été combattue par cette frange peut-être la plus extrémiste de l'Église. Donc il y a ce discours extrêmement négatif, et c'est vrai que du coup, je ne suis pas sûre qu'il porte extrêmement beaucoup dans la société russe, qui ne me paraît pas ultra pratiquante, mais je me retourne vers la spécialiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de retour critique. Justement, il y a cette question de la mémoire aussi qui est intéressante, qui est selon l'expression de Ricoeur, hein, la mémoire empêchée, parce que l'Église russe orthodoxe n'a pas fait ce retour critique sur aussi ces relations plus qu'ambiguës avec le pouvoir soviétique. Et donc ça reste véritablement un impensé, et que du coup est peut-être aussi la critique est du coup peut-être aussi du bolchevisme, et d'autant plus surinvesti que l'Église orthodoxe a eu des relations, on peut pas dire de on va pas porter de jugement, de compromission, mais en tout cas des relations qui ont été rétablies avec le pouvoir soviétique.
Un complément sur l'Église
orthodoxe. Oui, un complément. Alors, bon, la spécialiste de la question est Cathy Rousselet, qui n'est malheureusement pas là parce qu'elle est à Moscou, et je pense que voilà, à son retour, elle aura beaucoup de choses à dire. Le paradoxe là aussi pour l'Église orthodoxe, c'est à la fois dans un premier temps d'avoir subi évidemment la révolution, d'avoir été victime de répression, etc. Et en même temps aujourd'hui, donc à la fois de ne pas pouvoir effectivement célébrer cette mémoire d'octobre, mais en même temps d'être très proche des autorités russes actuelles et de participer de la construction de ce grand récit patriotique qu'a mis en place le pouvoir actuel. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une proximité très grande actuellement entre le patriarcat de Moscou et le pouvoir politique au service de ce narratif de la grandeur russe qui emprunte aussi à l'expérience soviétique.
Je signale simplement, si vous me permettez, que dans un mois prochain, il y aura un article dans la revue Études de Cathy Rousselet sur la situation des églises orthodoxes en Russie.
Voilà.
Vous aurez donc la réponse détaillée à votre question. Alors, reprenons une série de questions. Voilà, troisième rang. Voilà, levez bien la main.
Bonsoir. Une explication. Est-ce que ne pourrait pas y avoir une explication au fait qu'il n'y ait pas un élan populaire pour se souvenir de la révolution de 1917? Je ne connais pas l'Union soviétique. J'ai fait quelques voyages juste après, donc au début des années 90, hein, quand il y a eu l'explosion, la fin de l'Union soviétique. Et quand je discutais avec des personnes qui gardaient le sourire, mais il y avait un sentiment de souffrance. Je vois les personnes qui avaient eu des privations. Quand je demandais, qu'est-ce que je vous rapporte? Ah, si vous pouvez me rapporter du chocolat, j'en ai pas eu depuis un an ou deux ans. Ah, la voiture. J'avais réservé pour avoir une voiture. On devait l'avoir. Et maintenant, on va me rembourser. Mais avec le prix de la voiture, je pourrais m'acheter un imperméable. Il y avait toujours le sourire. Est-ce que vraiment, quand on a souffert, parce que ce dont on ne parle pas, c'est la nomenclatura. J'ai vu les sanatoriums avec 3 ou 4 niveaux de salles de restaurant. La rouge, bien entendu, réservée à la classe supérieure. Et aux visites de propagande des représentants de la cause communiste, marxiste, de pays français. Donc, est-ce que ça ne peut pas être l'explication? On ne veut plus se souvenir des privations que nous avons subies.
Merci. Une question ici sur la gauche.
Le programme scolaire parle de cette révolution. Le programme, est-ce que les élèves, on leur apprend? Est-ce qu'il y a des cours d'histoire? Voilà.
Oui, ce serait intéressant de réfléchir plus largement sur le contenu des manuels scolaires en histoire. Je fais l'objet de débats très intéressants, pas seulement en Russie du reste, mais bon.
En France aussi, sur la manière dont était présentée la révolution soviétique.
Oui. Alors, y a-t-il une troisième question? Oui, pardon, par ici.
En fait, je connais pas très bien l'histoire de la révolution d'octobre. Et du coup, si j'ai bien compris ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est que en France, il y a une réception de l'image de cette révolution très positive. Alors que, d'après ma connaissance, si je fais la comparaison avec la Chine, donc pour la révolution de 49, j'ai pas eu l'impression qu'il y a une réception d'image très positive en France. Et du coup, est-ce que vous avez une explication là-dessus? Enfin, voilà.
Merci. Alors.
Une autre question.
Ah, pardon. Allons-y. Allez. Vous avez un tour.
Soir, moi, je voulais revenir sur, en fait, dans votre feuillet, vous posez une question à la fin du feuillet. Et ça m'intéresserait d'avoir une réponse.
Vous voulez rappeler tout...
Serait-ce que le no futur a balayé l'espérance?
Merci. Avant de quoi s'occuper, donc, mémoire des privations, la révolution des manuels scolaires, comparaison avec la Chine, pas forcément facile, et puis, toujours pareil, le retour à cette question de l'espérance ou de l'avenir. Alors,
je peux donner quelques éléments sur la question effectivement du sentiment de souffrance. Alors, la situation là aussi est un peu compliquée parce qu'en fait la période du changement de régime, la disparition de l'URSS a entraîné des difficultés très très grandes pour la société russe. Donc c'est dans la mémoire récente de la population, la période la plus difficile peut-être, c'est celle du tout début des années 90, de 80 91-92 avec la libération des prix, et c'est là que une inflation formidable qui a complètement les gens ont perdu toute leur épargne, donc un appauvrissement extrêmement brutal de la très grande majorité de la population russe, et l'enrichissement d'une élite très minoritaire, les fameux oligarques qui, eux, ont fait des fortunes flamboyantes en quelques années. Donc, au fond, le moment peut-être le plus violent, ça a été ce moment vraiment du changement de régime du début de l'année 92 et de l'année 93 l'appauvrissement très rapide de la population, qui a contribué en fait à discréditer en Russie l'idée même de la démocratie et en partie du marché en fait et du libéralisme. Donc il y a eu quand on parle aujourd'hui en Russie, hein, cette période du début des années 90 est perçue comme vraiment une période extrêmement néfaste dans l'histoire du pays. D'une certaine façon, Vladimir Poutine a très bien compris cette difficulté en construisant toute sa légitimité politique sur la dénonciation des années 90 et sur les errements des années 90, mais par contre en réhabilitant en partie l'histoire, le dernier soviétisme, en fait, d'une certaine façon, la stabilité de la période Brejnev. Donc le rapport en fait à la fin de la période soviétique est assez compliqué, puisqu'il y a une forme de nostalgie aussi pour la stabilité brejnevienne et une très grande désillusion à l'égard des programmes de démocratisation qui ont été ceux, et de passage au marché, qui ont été ceux du début des années 90. Voilà, donc c'est le sentiment de souffrance, il est aussi très associé à cette période en fait de la disparition de l'Union soviétique. Et pour ce qui est des manuels scolaires, donc effectivement c'est un sujet extrêmement important, hein, savoir ce qui est enseigné aux enfants russes actuellement. Et en fait, ces dernières années, les débats ou les controverses autour des manuels scolaires ont plutôt porté sur la relecture du stalinisme que sur la relecture de la révolution. C'est là que les débats les plus importants ont eu lieu, puisque en fait, d'une certaine façon, le Staline a fait son retour dans certains manuels d'histoire, pas tous. Et notamment, il y a eu toute des débats très importants, puisque dans un des manuels d'histoire, Staline était présenté comme un bon manager, et ce qui a évidemment suscité d'importantes contestations. Donc je dirais que le débat a plus porté sur la relecture du stalinisme, au fond, que sur la question de la révolution. Peut-être que Sophie a d'autres éléments.
Sur la Chine, je peux peut-être vous donner quelques éléments de réponse. Je crois qu'il y a cette distorsion que vous soulignez, elle est tout à fait juste. Elle est liée aussi aux circonstances historiques, hein, c'est-à-dire que la révolution de 1917, elle a aussi porté, elle a été appropriée aussi avec la thématique. Non seulement de la justice sociale, de la révolution, mais aussi de la paix, et plus tard de l'antifascisme. Tous ces éléments qui ne sont pas là quand on reçoit la révolution chinoise dans les années 1950. Et puis il y a aussi la question de la proximité culturelle, hein. C'est vrai qu'on s'intéresse d'abord aussi à ce qu'on connaît ou à ce qu'on aime. On connaît en France la littérature russe, il y a cette proximité, alors que la Chine est beaucoup plus... lointaine, dans la mythologie soviétique, il y a aussi cette vitalité culturelle de la Russie soviétique, surtout des années 1920, c'est ça qu'on va retenir, mais l'idée qui fait partie aussi du projet soviétique, hein, de l'émancipation par la culture, on va recevoir toute cette production littéraire, le cinéma, etc., que tout ça ne va pas passer, hein, entre la Chine et la France. Mais là où je nuancerais quand même votre question, c'est que je pense que malgré tout, la révolution chinoise a contribué à faire perdurer cette mythologie révolutionnaire marxiste, parce qu'elle a été un autre modèle. Au moment où le modèle stalinien devenait quand même difficile à investir avec le goulag, etc., la Chine a porté quand même un autre modèle, ensuite Cuba d'une autre façon, mais on relayait, hein, et
pas seulement chez les maoïstes militants, mais plus largement et aussi avec cette contamination de l'image nationale et de l'image révolutionnaire. Hein. On voit quand la Chine s'éveillera, etc. Il y a eu quand même aussi beaucoup d'aveuglement des Français sur la Chine, sur la Chine maoïste, sur la révolution culturelle. Avec aussi cette dimension de diplomatie d'influence qui existe aussi, qui est moins connue, en tout cas moins étudiée, parce que les archives sont difficiles d'accès sur ce point, mais qui commence à être étudiée. Hein. Il y a un jeune Chinois qui fait une thèse justement sur les sociétés d'amitié, amitié France-Chine, France-URSS, etc., qu'il compare. Et donc là, on comprendra mieux comment fonctionnent ces canaux qui vont non seulement diffuser une image, mais aussi empêcher l'information. C'est ça aussi, la diplomatie d'influence, c'est qu'on va arrêter des informations négatives sur l'économie, sur la répression, etc.
De Gaulle avait d'ailleurs envoyé comme émissaire en Chine pour la reprise des relations diplomatiques Edgar Faure, qui était lui-même un des principaux agents d'influence soviétique en France. Donc, il savait jouer sur les deux tableaux. Alors, le temps est maintenant venu de nous séparer. Si tu permets, je dirais un petit mot à propos de la phrase que vous avez citée, puisque j'en suis l'auteur. C'est pour rendre hommage à la personne à laquelle j'ai emprunté le titre de cette soirée, Crépuscule de la Révolution. C'est un historien italien, Paolo Prodi, grand historien, disparu en décembre dernier. Et peu de temps avant de mourir, il a publié un tout petit livre qui s'appelle Tramonto della Rivoluzione, Crépuscule de la Révolution, dans lequel, je résume très brièvement, il explique que l'idée de révolution en Europe a été liée depuis la période médiévale à la double institutionnalisation de l'Église, donc de la religion chrétienne, et de la société. Et que c'est dans cet espace entre les deux que l'idée révolutionnaire n'a cessé de se propager et de se diffuser en Europe. Mais aujourd'hui, cette idée s'est dissoute dans la mondialisation. Et donc, après la fin de la révolution soviétique, eh bien, explique Paolo Prodi, ce serait la fin de l'espoir révolutionnaire lui-même qui aurait lieu, alors que aujourd'hui, entre mondialisation et préservation du futur par une sorte d'arrêt ou de désespérance du progrès, notamment pour des raisons écologiques, la révolution serait à son crépuscule. Voilà, je vais résumer très très brièvement ce qu'était la thèse de Paolo Prodi. Nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre pour le prochain mardi d'éthique publique, et également pour celles et ceux que cela intéressera, le samedi 25 novembre débutera une série de conférences sur la connaissance de l'islam, et la première conférence portera sur un islam ou des islams, donc le samedi 25 novembre à 9h ou 10h, à 10h. Voilà. Merci encore à nos deux conférencières de ce soir pour leurs interventions passionnantes, et merci à vous pour votre présence.
Intéressant, toujours des questions différentes.
Ah oui, c'est parfois inattendu.